Bonsoir. Certains acteurs politiques de la province de l'Équateur contestent le contrat signé entre la société de droit congolais équatorial Energy and Water et la firme finlandaise Primitas Financing sur la construction de 7 centrales électriques dans cette province. En contrepartie, cette firme finlandaise va exploiter les richesses de la province pendant 75 ans. Quelles sont les raisons qui poussent ces acteurs politiques de l'Équateur à contester ce contrat? Nos invités sont Henri Thomas Lokondo, sénateur élu de la province de l'Équateur. Sénateur Lokondo, bonsoir.
Bonsoir, Jérôme.
Maître Dismas Mangbengu, directeur de cabinet du gouverneur de l'Équateur, il a participé à toutes les négociations qui ont abouti à la signature de ce contrat. Maître Dismas Mangbengu, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Également en ligne, professeur Dieudonné Mosibono, professeur à l'université de Kinshasa, environnementaliste et écotoxicologue. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Moses de Bouna, en province orientale. C'est bien de développer ce pays et la province de l'Équateur en particulier, mais il faut aussi tenir compte des générations futures. Je me demande à qui profitera ce contrat. Augustin de Kinshasa, qui peut nous démontrer de façon chiffrée si la construction de cette centrale électrique est vraiment proportionnelle à la contrepartie de 75 ans d'exploitation des ressources de l'Équateur? Et j'aimerais aussi savoir de quelles ressources il s'agit dans ce contrat. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Une bonne partie de la classe politique de la province de l'Équateur conteste le contrat signé sur la construction de cette centrale électrique dans la province de l'Équateur. Cet accord est signé entre, d'une part, la société de droit congolais Équatorial Energy and Water et, de l'autre, Primitas Financing, une firme finlandaise. En contrepartie, la firme Primitas Financing va exploiter les richesses de la province pendant 75 ans. Plus de détails avec vous, Kevin Couté.
Selon certains acteurs politiques de la province de l'Équateur, un groupe d'investisseurs finlandais aurait signé en date du 11 juin 2010 à Stockholm en Suède un contrat avec les autorités congolaises pour la fourniture de centrales électriques dans la province de l'Équateur. Cet accord aurait été signé entre, d'une part, la société de droit congolais Equatorial Energy and Water et de l'autre part, Primitas Financing, une firme finlandaise. Selon le protocole d'accord, la firme finlandaise devrait construire dans la province de l'Équateur des centrales électriques de 10 MW. Et en contrepartie, ce contrat autorise à cette firme d'exploiter les ressources naturelles en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de l'Équateur, pour une durée de 75 ans. Certaines clauses de ce contrat stipulent, je cite, « Il est assujetti aux droits de fond de l'Angleterre et Pays de Galles et que le siège ou le lieu juridique de l'arbitrage sera Londres en Royaume-Uni, tandis que la langue qui sera utilisée dans le débat de l'arbitrage sera l'anglais. » Fin de citation. Une bonne partie de la classe politique de la province de l'Équateur conteste ce contrat et estime qu'il est inconstitutionnel et déséquilibré. Certains observateurs, quant à eux, pensent que si ce contrat est mis en application, la Corée équatoriale n'existerait plus dans 75 ans.
Merci, Kevin Couté, sénateur Henri Thomas Lokondo. Au cours d'un point de presse que vous avez organisé ce week-end à Kinshasa, vous estimez que ce contrat est inconstitutionnel et déséquilibré. Pourquoi?
Merci beaucoup. Mais avant de reprendre à votre question, je voudrais d'abord faire une considération d'ordre général pour dire ceci, c'est que le problème de l'électrification de la forêt de l'Équateur tient à cœur tous les enfants de l'Équateur. Il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent c'est du courant à l'Équateur, et de l'autre côté ceux qui sont contre l'électrification de la province. Et j'avais dit que ce contrat était inconstitutionnel parce que l'article 201, je ne sais de le répéter, et 202 de la Constitution confère cette matière au pouvoir central. Et quand vous lisez le contrat dit que les concessions qu'on accorde aux Finlandais pour exploiter le minerai d'or, du diamant, de fer, du bois, de l'huile de palme pendant 75 ans. C'est dans le pays. On ne dit même pas que c'est dans l'Équateur. C'est écrit.
À travers toute la RDC.
C'est écrit. Alors que cette matière relève du pouvoir central. Donc une province ne peut pas prendre des engagements qui engagent tout un pays comme ça sans se référer aux affaires étrangères au niveau national. Ça, c'est de un. Et de deux, quand vous lisez cette, ce contrat, on parle de la société équatorienne, Equatoria Energy. Comment une entreprise qui n'est pas encore créée, parce que quand vous lisez le contrat, on dit qu'Equatoria Energy est en cours de constitution, donc elle n'est pas encore créée. Comment une entreprise qui n'est pas encore créée peut-elle conclure un contrat? Cela veut dire, en fait, comme on voit, que ce contrat n'existe pas. Et comme on dit, on voit, d'union, rien ne naît. Quand vous lisez le contrat, tout ce qui est dit là, quand on crée une société, on doit avoir ses statuts. Quels sont les statuts de cette société? Quels sont les actionnaires de cette société? On ne les connaît pas, on ne connaît rien. Absolument rien.
Donc c'est une entreprise fictive.
Complètement. Complètement, parce que pour moi, ça n'existe pas. Même si ça pouvait, si ce contrat pouvait exister, il y a encore une entorse juridique majeure. Quand vous lisez le contrat, celui qui a signé le contrat, un certain Ridi Ilumbe Bulumbu, il a signé en quelle qualité? Parce que dans le contrat, il n'a pas mis sa qualité. Il a signé en quelle qualité? Sa qualité n'est pas mentionnée dans le contrat. Donc, le gouvernement provincial a reconnu et accepté un contrat signé par un homme sans qualité. Donc, elle est compétente. Parce qu'il n'a pas, une prérogative constitutionnelle. Comme vous voyez, le contrat, c'est signé par lui. Il dit Ilumbe Bulumbu. Et bon, le contrat est seulement reconnu et accepté par la province d'Équateur.
Avec la signature du gouverneur.
Donc, c'est pas lui qui a signé. C'est un détail très important. C'est pas lui qui a signé.
Et c'est pas j'ai aussi la copie du contrat qui a acquis cette signature.
Ilumbe. Il dit Ilumbe qui a signé. Et quand vous voyez le contrat là, on dit reconnu et accepté. Donc c'est pas signé. On parle français, non?
Alors là, c'est l'inconstitutionnel, le caractère inconstitutionnel et le caractère déséquilibré. En quoi il est déséquilibré?
Cher ami, vous savez, nous sommes là devant un contrat, le contrat léonin du siècle. Jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo, on a signé un contrat de ce genre. C'est surréaliste, c'est grave. Pour 210 millions d'euros, ce qui représente 280 000 dollars.
210 millions ou 10 000
euros? Non, 210 millions d'euros, ce qui représente 280 millions de dollars. Que l'on puisse concéder, comme vous l'avez dit, l'exploitation pendant 75 ans. De minerais d'or, de diamants, de fer, de l'huile de palme du pays, même si c'était pour la province seulement. Je considère ça sincèrement comme une espèce de mafia sicilienne, parce que, comme vous le savez, les contrats que nous avons signés avec les contrats chinois, à l'époque, quand on nous les a proposés, représentaient 10 milliards de dollars. Mais on a signé quand même ce contrat pour 30 ans seulement. Et ce contrat avait comme garantie seulement les ressources minières. Mais pour 210 millions seulement d'euros, on veut hypothéquer toutes les richesses forestières et minières du pays. Moi, je parle du pays. Je ne parle pas de la province. Je lis le contrat. Voilà pourquoi je dis que ce n'est même pas déséquilibré, ce n'est même pas léonien. C'est notre qualificatif pour l'appliquer sur ce contrat. Mais c'est vraiment malheureux qu'on puisse conclure des choses comme ça. Je ne sais pas si les amis qui ont signé ce contrat l'ont signé debout, assis, parce que c'est incroyable. On ne peut pas faire ça. Parce que même si on voulait avoir de l'électricité en Bada, à l'Équateur, mais il ne faut pas tuer la province parce que vous voulez mettre de l'électricité.
Voilà, nous allons donner l'occasion à Maître Dismas Mambengu, directeur de cabinet du gouverneur de l'Équateur, qui a également participé à toutes les négociations qui ont abouti à la signature de ce contrat. Maître Mambengu, est-ce que vous confirmez la signature de ce contrat?
Monsieur le journaliste, merci pour cette très belle question de ce jour. Je vous avoue primo pour rectifier trois choses. Un, il n'existe aucun contrat signé entre la province de l'Équateur et la société Equatoria Energy and Water. Mais plutôt, il existe un protocole d'accord signé en date du 6 juin 2010 à Mbandaka, et non à Stockholm, Suède, entre la province de l'Équateur et la société Trinitas. Et ce protocole ne renferme que les intentions des parties.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, je continue, que les intentions des parties, je veux vous lire l'article primo, où les Finlandais, la société finlandaise, et la province de l'Équateur s'accordent sur une chose, c'est-à-dire on définit les obligations des parties relativement à la à ce protocole d'accord, c'est-à-dire quel sera le long de ce processus entre la partie finlandaise et la province de l'Équateur, et lorsqu'on aura mis le tout ensemble, il viendra maintenant en second lieu une question de compétence. Qui pourra faire quoi? Je crois qu'il faut quand même que nous puissions apprendre à nous respecter mutuellement. Il n'existe pas un seul contrat, et c'est pourquoi je vais inviter mon frère honorable sénateur Lukundo à accepter que nous puissions prolonger ce débat devant l'écran de la télévision, pour qu'il nous montre ce prétendu contrat qu'il est en train de produire en imaginaire. Parce que c'est un contrat que nous ne reconnaissons pas, que nous n'avons pas signé. Je crois que nous ne sommes pas des semi-lettrés, nous sommes des juristes, et parmi nous, les classiques de tous bords se retrouvent.
Maître Dismas.
Oui.
Maître Dismas, je pense que l'émission porte sur des faits. Le sénateur Lukundo a donné les faits que lui considère comme étant probants. Si vous avez des faits, donnez-nous les faits. Évitez de vous attaquer aux personnes. Vous avez énuméré le premier élément. Quels sont les deux autres?
Non, j'ai dit le premier élément qu'il n'y a pas de contrat. Le deuxième élément, j'ajoute le deuxième élément, qu'il n'y a pas question jusque-là de construction de deux centrales. Mais il y a construction de 7 centrales thermiques. Et 3, je veux ajouter, et non, j'ai dit qu'il n'y a pas de centrales électriques, mais de centrales thermiques. Et 3, j'ai dit que nulle part dans le protocole d'accord du 6 juin 2010, il ne fait mention d'une quelconque contrepartie à exploiter les richesses de la province de l'Équateur pendant 75 ans. Par la société finlandaise. Nulle part. Hein? Nulle part. Donc c'est un montage qui n'existe pas. Et peut-être que je peux comprendre, vous dites qu'on s'attaque aux gens, c'est-à-dire l'idée pour nos frères, qu'ils soient à deux, le Kondo au sénateur et ici au sénateur, peut-être qu'ils ont perdu les terrains en bas d'accord, et ils commencent à monter pour se faire.
Maître Dismas,
oui.
Respectons les principes de l'émission, je vous en prie. J'ai une copie du contrat devant les yeux, signé à Stockholm le 11 juin 2010, par Ribi Ilumbe Bolumbu, pour Equatorial Energy and Water en cours de constitution, et il y a reconnu et accepté par le gouverneur de province Jean-Claude Bahende. Qu'est-ce que vous en dites?
Je dis que c'est archi-faux. Le document que M. Lukundo vous présente, c'est un faux document, tout simplement.
Alors, puisque vous ne reconnaissez pas ces documents, vous nous parlez plutôt d'un protocole d'accord. Qu'est-ce qui a été stipulé dans ce protocole?
Le protocole, parce que je veux faire marche en arrière. Si le gouvernement n'a pas signé, alors à quoi bon chanter sur tout l'état du monde que la province de l'Équateur a signé contre la partie. La personne qui répond à la province de l'Équateur, valablement, c'est le gouvernement de province. Et il n'a pas signé. Et pourquoi on doit construire tout le débat autour de ça? Bon, de deux, Je résume ce que vous avez posé comme question. Je vous lis une exception, l'article 1er du protocole d'accord. Le présent protocole a pour but de tracer l'objectif à poursuivre, le cadre de collaboration, ainsi que les obligations des parties.
Alors, quelles sont les obligations des parties?
Suivez relativement à ce protocole des travaux de préparation afin d'aboutir à un acte final. Et ce acte final, c'est la création, n'est-ce pas, d'une société mixte entre la province de l'Équateur et la société finlandaise Communitas Exploration. Bon, voilà. Et parmi tant d'autres objectifs poursuivis par ce protocole, comment arriver à donner du courant à ce territoire, disons six territoires, plus la ville de Mbandaka. Donc c'est ça.
Voilà.
Et ce protocole, c'est un processus.
Alors, peut-être avant de donner la parole au professeur Dieudonné Mosibono, éclairez-nous, Maître Bismas Mambengu, ce protocole, qu'est-ce que la société finlandaise doit faire et qu'est-ce que la province doit faire concrètement?
Alors, concrètement, nous disons que le protocole ne renferme que des intentions de parti. La province de l'Équateur est à la recherche des investisseurs. La province de Pâté a une forêt, il a des eaux, et il pleure son sous-sol. Et la province de Pâté cherche à, comment dirais-je, apporter une solution à la misère, de nos populations.
Voilà.
Encouragé par le chef de l'État, parce que nous fondons d'ailleurs nos réflexions sur les cinq chantiers où l'eau et l'électricité. Et
même, j'ai
indébutablement.
Voilà, mais
nous avons. Oui.
Maître Bismas, bon, vous n'avez pas clairement donné les intentions de parti. Peut-être que dans un deuxième tour de table, vous allez y revenir. Professeur Dieudonné Mosibono, vous êtes enseignant à l'Université de Kinshasa, environnementaliste et écotoxicologue. Professeur, un mot sur ce débat auquel vous assistez.
Merci beaucoup. Je suis un peu étonné parce que. Là, nous assistons à une polémique entre deux intervenants. Je voudrais un peu prendre la position du sénateur que je connais très bien aussi. Effectivement, si ce sont là les contrats, il s'agit pour le simple d'un bradage des ressources. Parce qu'en fait, pour pouvoir équilibrer un contrat, il faut en amont des études qui montrent quelles sont les réserves, quelles sont les ressources ciblées, qui représentent quelle quantité, et pendant combien de temps d'exploration, qu'est-ce que ça peut rapporter et comment le bénéfice pourrait être redistribué dans la communauté. Sans ces études préalables, on va brader les ressources. Et deuxièmement, on parle de centrales thermiques. Je suppose qu'ils vont utiliser la biomasse. Il faut voir quel genre de biomasse ils vont utiliser. Parce qu'ils vont utiliser le combustible, le fossile. Ils vont certainement utiliser la biomasse. Si c'est la biomasse à venir, il y aura une déforestation.
Professeur, pour les auditeurs qui nous suivent et qui ne sont pas tous spécialistes, biomasse, essayez d'utiliser des termes simples, je vous en prie, pour que...
D'accord, merci beaucoup. En fait, je parlais de l'énergie fossile, c'est le pétrole et le gaz. Et biomasse, c'est le plante, tout le débris organique, là, les choses organiques, surtout les végétaux, qu'on pourrait utiliser pour produire l'énergie et de l'électricité en particulier. C'est ça l'énergie de biomasse. Mais pour que l'énergie de biomasse soit durable, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'exploitation et le renouvellement. Or, dans le cas des choses, il n'y a pas une étude qui a montré quelle quantité de biomasse pourrait être utilisée et pendant combien de temps et pendant ce temps, selon l'activité alternative qui permet de renouveler les stocks biologiques. Et sans ce suite là-dedans, on risque de se retrouver avec des centrales sans biomasse pour alimenter ce dernier. Et donc, il faut une étude approfondie. Il ne faut pas dire qu'au moment où on recherche le développement, il faut brader les ressources. Parce que quand vous dites 75 ans, nous avons un exemple. Dans la province de Bandungu, dans les alentours de la ville de Likoud, l'énergie pendant l'époque, toute l'économie pendant l'époque coloniale était centrée sur le palmier à huile. et le groupe Ivoux Les Verts, pour ne pas le citer, avait exploité pendant 115 ans de plantation. Après avoir fait des bénéfices, et nos plantations ayant dû, ils ont migré en Malaisie. Et aujourd'hui, la MOCT était un pays exportateur d'huile de palme devient importateur. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas de prévision réfléchie, on est toujours devant la carence et on redevient plus pauvre qu'en avant. Et que par exemple, disons que c'est une chose qu'antérieurement. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut une commission de gens réfléchis, posés, objectifs, qui essaient d'évaluer les impacts économiques, les impacts écologiques et les impacts sociaux d'un pareil contrat. Si c'est vraiment un contrat, parce que là, les dossiers du gouvernement, nous, qui n'a pas un contrat, le sénateur dit qu'il y a un contrat, donc finalement, on ne sait pas qui quoi, mais moi, je parle en théorie, parce que je ne suis pas en présence d'un contrat concret. Normalement, quand il y a un contrat, il faut l'analyser pour voir ce que ça va rapporter, combien d'emplois rémunérateurs ça va créer, comment l'électricité qu'on va donner va produire de la valeur ajoutée, c'est-à-dire promouvoir par exemple le développement industriel de la province, en transformant par exemple le bois sur place, je prends un exemple comme ça, ou le café sur place, et exporter un produit qui a de la valeur ajoutée.
Okay.
Comment transformer le poisson, ainsi de suite. Or, je ne pense pas que ce soit le cas d'espèce pour le moment. Donc, si c'est pour les mesures, pour éclairer les maisons, ça nous fait de la simple consommation, ce n'est pas le développement.
Voilà. Professeur Dieudonné Mossibono, nous allons prendre cette question qui nous vient du Maniema pour vous.
Augustin Mwango de Kalima au Maniema, ces acteurs politiques ont, à mon avis, raison, car j'ai l'impression que bon nombre des contrats qui sont signés par nos ténats du pouvoir ne partent pas d'une étude approfondie et ne tiennent pas compte des aspirations locales. L'essentiel n'est pas de signer trop des contrats, mais de comparer ce que doivent gagner les Congolais par rapport à ce que ton sol doit donner. Il serait mieux d'évaluer d'abord le bilan des contrats déjà signés, car leurs impacts sociaux me paraissent insignifiants.
Professeur Gabon pratique presque dans le même sens que vous, mais il demande quand même que l'on évalue les autres contrats qui ont été signés avant.
Oui, bon, maintenant, c'est un peu le jeu que j'approuve, hein, parce qu'avant d'aller de l'avant, il faut comparer ce que les contrats antérieurs ont rapporté effectivement au pays, avant de penser à d'autres. Mais normalement, il est de pratique, internationalement accepté, que tout contrat doit être procédé des études d'impact environnemental et social, parce que les ressources environnementales sont des richesses potentielles. Il faut les transformer en richesses réelles, et ce sont les richesses réelles qui créent le développement, qui apportent le développement quand c'est bien géré, bien redistribué. Mais quand on signe un contrat sans ces évaluations-là préalables, on se retrouve devant l'arroseur arrosé, et puis finalement on devient le donneur de la farce après avoir bradé toutes les ressources. J'ai beaucoup d'exemples à RDC où on a vu, par exemple, dans le secteur minier, les gens signent des contrats sous prétexte qu'on va créer l'emploi, mais en réalité, il n'y a pas d'emploi créé. On prend les chômeurs, on les utilise comme main-d'œuvre temporaire. Au bout d'une journée, ils ont en moyenne $5 chacun, mais au bout d'un mois, s'ils travaillent 30 jours, là, $150. Est-ce qu'avoir $150 par mois constitue une richesse durable? Non, parce que la production journalière dépend de la force physique. Or, ce n'est pas ça l'emploi dont il est question. Un emploi durable, c'est un emploi rémunérateur qui répond aux besoins vitaux de base. Ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment un bradage.
Merci, professeur Dieudonné Mossibono. Monsieur le sénateur Henri Thomas Lokondo, vous avez suivi Maître Dismas Mambengu, qui rejette pratiquement en bloc ce contrat. Est-ce que vous pouvez attester la véracité de ce contrat?
Vous savez que je suis à l'instant même l'homme le plus heureux.
Pourquoi?
Parce qu'il reconnaît, que ce contrat n'existe pas, alors que moi j'ai le contrat. Et je prends à témoin le chef de l'État. J'ai appris à ne pas dire des choses au hasard. Le Premier ministre, la Commission gouvernementale, qui statue maintenant sur ce contrat. Ce contrat ici est en train de le requalifier, de le redimensionner. Le contrat existe. Ça, c'est un mensonge d'État. C'est honteux pour notre province. Avoir des gens comme ça qui gèrent notre province en mentant sur les évidences. Nous ne pouvons pas fabriquer un contrat, c'est publié. Qu'est-ce qui se passe? Les élus de la province qui gère la province, ils ont monté ce contrat sans avoir informé l'opinion. Même les députés provinciaux, ils ne sont pas au courant de ça. L'opinion nationale, l'opinion provinciale n'est pas au courant de ça. Il a fallu qu'un certain Henri Thomas Lokondo parle. Et je vous dis clairement qu'on en avait parlé avec le chef de l'État de ce contrat. Puisque ça existe, je ne peux pas mentir au chef de l'État. Parce qu'il m'entend.
Et quelle était sa réaction?
Le ministre de l'État, lui, il a eu la gentillesse de poser la question, savoir de donner mon point de vue sur le contrat. Et comme je vous ai dit, je lui ai dit que le contrat était, la fille du contrat était mauvaise et qu'il était inconstitutionnel. Parce que quand ils disent que lui, mon frère Mangungu, dit que le contrat n'existe pas, mais ils avaient déjà informé l'opinion que le président de la République viendrait inaugurer les travaux là-bas. Il vient de donner le premier coup de pioche de ce contrat au niveau de l'Équateur. Ils avaient dit ça. Vous savez, quand il parle de protocole d'accord, mais qui nous le montre? Je veux bien, parce que nous avons commencé à parler de ce contrat, d'attaquer ce contrat, depuis il y a plus de trois semaines, plus un mois, mais non. Pourquoi eux ne présentent pas le fameux protocole d'accord là, où il n'y a que des intentions? Et vous-même, vous avez remarqué, et vous lui avez dit, comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce bien et les mots pour le dire viennent aisément. Il a eu des difficultés pour expliquer ce que ce qu'on voulait. Et puis pour le reste, vous savez, moi je ne serais pas déstabilisé sur les attaques personnelles. Comme disait Giscard d'Estaing, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Ah, mais je vais dire ceci,
très rapidement,
je vais dire ceci, c'est que pour moi, le débat est clos. Parce que ce que nous on cherchait, c'est qu'on puisse mettre fin à ce contrat. Mais puisque lui dit que il n'y a pas de contrat. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a plus d'enjeu.
Voilà, vraiment, cette question qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous, sénateur Lokondo.
Jean Bosco Salalanyendou de Lubumbashi au Katanga. Je crois que le contrat signé pour que cette firme finlandaise construise 10 centrales hydroélectriques dans la province de l'Équateur, eh bien ça, un pays ne peut pas se développer sans énergie électrique. Mais ce qui est gênant, c'est la durée qu'elle va prendre pour exploiter les minéraux. C'est comme si elle veut nous dépouiller de tous les minéraux dans les 75 ans avant de nous laisser nous contenter seulement du courant qu'elle va nous installer, sachant bien que les minéraux ne sont pas éternels.
J'ajoute deux autres réactions, sénateur Lokondo, Robert Baronet de Bukavu, suivez-vous. Si le contrat passé entre Énergie et Anwoto et la firme finlandaise va à l'encontre des intérêts de la population de l'Équateur, les acteurs politiques de cette province ont tout à fait raison de le contester. Néanmoins, comment les richesses ou les potentialités regorgées par cette province seront-elles alors mises en valeur? Resteront-elles à jamais sans être réellement exploitées, sénateur Lokondo, brève réaction.
Oui, je les remercie, je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce qu'il m'a pris, mais vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que nous devons électrifier la province qu'il faut la tuer. Le contrat qui a été signé pour les centrales électriques, c'est à base du biomasse. Vous savez, les autres pays qui sont cités en exemple, qui appliquent le biomasse, ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Mais nous avons deux opportunités. Si nous avons deux barrages hydroélectriques, nous avons le barrage d'Inga et le barrage de Mobayimbongo, comme je l'avais dit avant-hier. Et ce barrage-là, le transport seulement, pour transporter le courant de Maluku ici, parce qu'il est tué au niveau de la Seine, on ne dit pas de choses au hasard, jusque Mbandaka, en traversant toutes les autres contrées, on vous demande seulement 200 millions de dollars, comme j'avais dit, pour une capacité de 200 mégawatts. Et pour transporter le courant de Mobayimbongo, on vous demande 120 millions seulement. C'est pas une question de refuser l'électrification, mais c'est une question d'une étude, comme le professeur l'avait dit, étude économique, étude financière, étude juridique, étude environnementale. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord, mais c'est la formule, c'est la démarche qui est mauvaise et qui ne peut pas être acceptée.
Maître Dismas Mandengu, y a-t-il eu des études qui ont été menées pour mesurer l'impact environnemental, les conséquences juridiques et d'autres considérations? Y a-t-il eu des études?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je crois que nous devons être conséquents vis-à-vis de nous-mêmes. Pourtant, le sénateur Lokondo, mon frère, s'estime heureux. Pourtant, je m'estime plus heureux que lui.
Pourquoi?
Parce que le contrat dont il parle n'existe pas. Si effectivement il a une pièce entre ses mains, cela ne peut être qu'un faux. Mais dès lors qu'il affirme que le gouverneur de province, c'est lui-là que la province, les députés de province, lui ont cédé de conférer le pouvoir de représenter cette grande province, il n'a pas signé. Mais à quoi vous continuez à parler de contrat? Et à quoi vous continuez à discuter là-dessus? Nous ne reconnaissons pas ce contrat-là.
Mais, maître Dismas, sans, vous avez toujours la parole sans vous l'arracher. Le sénateur Lokondo a dit que le contrat existe et il a été publié. Il en a même parlé au chef de l'État. Comment vous ne le reconnaissez pas?
Merci.
Il y a même une commission intergouvernementale qui statue sur ça.
Lui, il a pu être honnête, et je le dis au mot, c'est le contraire du mot honnête qu'il représente. Je vous dis, et j'insiste, que les contrats n'existent pas. Et si nous pouvons être convaincus qu'il y a un contrat entre ses mains, demain après demain, passons devant l'écran de la télévision, qu'il montre ses contrats, que nous, de nous, n'avons jamais signé.
Alors,
nous reconnaissons un protocole d'accord qui est différent d'un contrat. Et après avoir signé le protocole d'accord, le processus a continué. Il y a des études juridiques, il y a des études environnementales, il y a des études écologiques qui sont en cours. Donc ici, vous a parlé d'une commission interministérielle qui a siégé et qui a
pu
rendre, mais ça, les résultats aussi de l'État. Pour sanctionner enfin un contrat entre Curitas et la République démocratique du Congo, et non avec la province de l'Équateur. Soyez sérieux. Moi, je le dis, la vérité finit toujours par triompher, et vous connaissez la vérité vous affranchira. Je dis et j'insiste, monsieur le Congo est en train de mentir. Je l'ai dit ouvertement à la face du monde, et il est allé se promener au chef de l'État. Parce que là, il a un fond, dès lors qu'il affirme qu'il parlait de cette religion, qu'il n'a jamais été gouverné la province de Kassel, qu'il ne l'est pas, qu'il ne le sera peut-être jamais.
Mais ça,
même entre nous, monsieur le journaliste, pourquoi nous devons continuer encore à parler? Il reconnaît que le gouvernement n'a pas signé. Donc le contrat n'existe pas, et le débat est court. Alors, je l'invite tout simplement à quitter, n'est-ce pas, l'hibernation, mais à accepter que demain après demain, nous puissions nous présenter devant la télévision nationale, la RTNC, à l'émission Question d'actualité, qui nous grandisse ce fameux contrat, entre guillemets. Monsieur le journaliste, je n'ai pas appris à mentir. Vous savez, nous avons été éduqués au village et nous avons reçu une éducation spirituelle.
Maître Dismas.
Comme vous. Oui, je continue.
Maître Dismas.
Ça énerve.
Maître Dismas.
Donc, pendant que nous parlons ici, toute la population de Côte croit effectivement qu'il y a un contrat léonais. Et même le mot léonais, mal placé, parce que le contrat n'existe pas.
Maître Dismas. Je pense que l'émission n'est pas la tribune qui vous est donnée pour vous annoncer des rendez-vous, défier d'autres personnalités, mais nous entendons au principe de l'émission, restons sur les faits, donnez les arguments que vous avez et ça nous permet d'avancer. Et à la population qui est en train de nous suivre, de mieux comprendre cette question. Prenons cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous, Maître Dismas.
Je salue cette démarche de contestation faite par nos acteurs politiques sur le contrat signé avec les Finlandais à l'Équateur. Ce contrat qui n'est pas salutaire auprès de toute la population de l'Équateur. Hormis les conséquences environnementales, ce contrat n'a pas aussi de fondement juridique et contient beaucoup d'irrégularités.
Maître Bismas, j'ajoute la réaction de Sida à Wanzambi et de Beni au Nord Kivu. Je ne comprends pas que notre pays, la RDC, soit exploité de la sorte pendant 75 ans. La RDC ne peut-elle pas à elle seule réhabiliter les autres phases de la centrale hydroélectrique d'Inga pour faire face à cette situation?
Oui, vous avez le cas d'Inga. Vous savez, lorsqu'on doit transporter le courant d'Inga pour Mbandaka seul, la seule ville de Mbandaka à l'équateur, ça nous prend 200 millions. Donc, pour le Kondo et ses compacts, le développement pour la province de l'équateur, il n'y a que la ville de Mbandaka. Alors que les 210 millions vont permettre à la construction de cette centrale à travers toute la province. Et c'est un projet à court terme. Le projet dont on parle, on n'existe pas, ne date pas d'aujourd'hui, Blesnel. Transporter le courant, la connexion d'Inga, de Mbandaka à Inga. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'Union est de 200 millions d'euros. Il dit pour transporter à Mumbai, encore que le barrage de Mumbai a des problèmes. Vous le savez, et il le sait. Hein?
Merci, maître. Merci, maître. Oui. Professeur Dieudonné Mossibono, il y a cet auditeur, c'est pas ITT de Mbandaka à l'Équateur, qui dit « Les acteurs politiques de l'Équateur ont pleinement raison de contester ce contrat parce qu'aussi longtemps que le monde entier s'engage à la lutte contre le réchauffement climatique à travers l'interdiction de déboisement, grave est de constater qu'on voudrait l'autoriser en RDC, c'est quand même curieux. »
Je vais m'y lancer, hein. Normalement, les changements climatiques ne sont pas qu'il faut rester dans le sous-développement perpétuel. Il faut trouver des solutions alternatives. Par exemple, si on veut utiliser la biomasse, comme je l'ai dit, il faut trouver des parcs à bois pour récupérer la biomasse et ce parc-là, avec une résistance à croissance rapide, de façon à construire un souffle fermé, et qui va épargner les ressources naturelles. Je prends l'exemple. À supposer qu'on reboise, 1 million d'hectares avec je ne sais pas quel arbre, les études vont démontrer qu'on va utiliser le produit de cette plantation-là pour alimenter les centrales et de façon fermée. En ce moment-là, il n'y aura pas de pression sur la forêt naturelle qui constitue le réservoir de la biodiversité, le sort de biomolécules, le sort pour les médicaments et même pour l'alimentation. Donc, en fait, nous avons un patrimoine biologique très important pour se protéger, et pour nous et pour les générations futures, mais qu'il faut gérer de façon rationnelle, en prélevant ce dont nous avons besoin, tout en pensant aux générations futures. Et je pense qu'il a raison, mais je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire « Charmant Climatique, nous ne faisons rien ». Non, Charmant Climatique, mais utilisons les solutions durables. Elles existent, les solutions durables existent, c'est question de mobiliser les compétences, de mobiliser l'intelligence. Comme on l'a fait en partenariat avec des collègues internationaux, on peut concevoir des modèles qui permettent de fournir l'électricité au pays, pour ne pas parler de la province de l'Équateur, au pays, et préserver les écosystèmes de façon durable. C'est faisable, nous ne sommes pas les premiers pour inventer la roue.
Professeur Dieudonné Mossibono, dans l'hypothèse où cette exploitation serait, j'utilise le conditionnel, serait effectivement de 75 ans, qu'est-ce qui pourrait rester de la forêt équatoriale et du reste?
D'abord, il faut voir l'ampleur de déforestation par an et puis les étendues couvertes. Moi, je pense que 75 ans, on risque de se trouver dans la situation du Brésil et d'Indonésie, avec de grandes superficies déboisées et donc. Sans développement réel. Là-bas, il y a le développement, mais ici, je donnerais ma main à couper si un exploitant développerait effectivement le pays. Parce qu'on va créer des problèmes et accentuer la pauvreté. Et cela serait regrettable parce que les générations futures vont payer pour le comportement irresponsable de leurs parents, de leurs aînés. Et donc, c'est pas correct. Pour moi, il faut des études, il faut des modèles prévisionnels qui vous permettent aujourd'hui, nous sommes en 2011, mais en Europe, on réfléchit sur ce que le monde sera en 2050. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir pour ne pas subir. Mais souvent, on a tendance à attendre pour subir. Et en subissant, vous restez sous-développé. Donc, il faut des études.
Quand vous arrivez dans cette autre municipalité, vous, vous voulez vous installer quelque part pour investir, on vous sort le plan du coin et on vous dit voilà, pour investir ici, voici le plan d'aménagement, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est partout dans les pays développés comme ça. Donc, il y a des plans d'aménagement prévisionnels qui sont gérés rationnellement pour ne pas permettre n'importe quelle occupation de l'espace. L'exploitation de ressources. J'aimerais ajouter en disant, comme l'honorable sénateur a dit, qu'on devrait exploiter non seulement le bois, mais d'autres ressources. Mais qui a évalué ces ressources-là pour savoir ce qu'elles représentent effectivement du point de vue économique?
Merci, professeur.
Quelle est leur valeur? Quelle est la quantité de stock? Quelle est la vitesse de renouvellement de stock?
Merci.
Disons renouvelable.
Merci, professeur. Il nous reste au moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Sénateur Locondo, puisqu'il me semble que tous vous êtes d'accord quant à l'électrification de la province de l'Équateur, quelles pourraient être les solutions à envisager dans ce sens en guise de conclusion?
Oui, il y a des études qui ont été faites au niveau de la SNEL. Et comme quand je vous dis que la commission gouvernementale est en train de réexaminer, de requalifier ce contrat, mais il y a de possibilités pour que nous puissions avoir du courant à partir de nos deux centrales hydroélectriques.
En comptant sur la SNEF.
En comptant sur la SNEF, avec un emprunt extérieur, parce que la République démocratique du Congo ne manque pas 100 millions ou 200 millions de dollars pour acheter des centrales, sans hypothéquer les richesses du pays. Je voudrais sincèrement... Parce que là, il n'y a pas eu vraiment des bases pensées. Moi, j'avais pensé qu'ils allaient reconnaître, honnêtement, mais comme ils se sont rebutés parce qu'on a réagi et maladroitement, nous voudrions. Moi, je voudrais vous demander, de leur demander de vous donner le fameux protocole d'accord là. Et je voudrais vous demander de contacter la commission gouvernementale qui est en train d'examiner, elle vous montrera que ce contrat existe bel et bien. En guise de conclusion, M. le journaliste, je vous prie. Comme Abraham Lincoln disait, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et vous avez senti dans le dire de mon frère là, tout est politique, tout est politicien. Alors, il y a une différence entre un politicien et un homme d'État.
Résumez-vous, sénateur,
un politicien est celui qui pense à la prochaine élection, toujours comme eux. Un homme d'État est celui qui pense à la génération prochaine. Donc moi, je pense à la génération future. C'est pourquoi je me suis opposé catégoriquement à ce contrat et je suis très content qu'il puisse.
Merci, sénateur.
Que ce soit revisé.
Merci, sénateur. Maître Bismas, en guise de conclusion, quelles sont les solutions pour électrifier la province de l'Équateur? Le sénateur Locondo parle de la SNEL.
Merci. Je précise pour conclure qu'il n'y a pas de contrat et que lorsqu'il dit qu'on peut mentir une partie du peuple, mais on ne peut pas continuer à mentir, c'est juste celui qui a menti. Ça, c'est une évidence. Et il a menti tout le peuple congolais, il a menti les chefs de l'État, il a menti tout le monde.
Et pour électrifier la province de l'Équateur,
aujourd'hui, qui est en train d'être par la commission interministérielle, ce sont des travaux préparatoires issus du protocole d'accord entre la société trinitaire et la province d'Équateur.
Merci, maître.
Aujourd'hui, ils ont été autorisés. Donc, pas un contrat, mais pas en train d'examiner un contrat.
Merci, maître Bismas. Professeur Mossibono, un mot pour conclure.
Merci beaucoup. Je pense qu'au moment où on parle du réchauffement de la planète, la promotion de l'hydroélectricité serait la meilleure. Hein, et nous avons un grand INA de potentialité immense. Si on peut investir là-dedans, on peut exporter l'électricité à toute l'Afrique. Moyen-Orient aussi de l'Europe, on serait plus riche.
Merci, professeur Dieudonné Mossibono. Merci également à Kelly Kouté, Samuel Tchatchak, Guy Matépele Kipela, qui vous ont préparé cette émission. La technique, Patricia Songa et Mimikindo. Présentation, Alain Hirou-Mouchi. À demain pour un nouveau numéro de Dialogue entre Congolais. Au revoir. Thank you.